Bon, on a donc, Sylvain disait, on a le plaisir d'accueillir donc Pierre Liollier de l'IGN qui vient présenter le projet qui a été porté par l'IGN donc et le ministère. Donc je le laisse peut-être se présenter un petit peu plus et puis donc il a une bonne demi-heure pour nous présenter le travail qu'ils ont réalisé.
Oui, et bien écoutez, d'abord bonjour à tous. Je remercie donc Eric Sanchez et Sylvain Genevoix de m'avoir invité à cette réunion aujourd'hui. Donc effectivement, je suis Pierre Liollier, je travaille à l'Institut Géographique National, je suis chef du service IGN Conseil et Application. Et plus particulièrement, en fait, chargé de piloter côté IGN le projet et du Géo. Voilà. Donc je vais vous présenter le projet, où est-ce qu'il en est actuellement et quelles sont les applications que l'on peut en faire. Donc tout d'abord le projet, de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif du projet? Le projet, c'est de réaliser un site internet accessible aux enseignants et aux élèves. Alors pour le moment, c'est ciblé école, collège, lycée, IUFM, CRDP, ça c'est ce que nous avons dans la convention avec le ministère de l'Éducation actuellement. Bien entendu, il n'y a pas vraiment de raison pour que cette convention puisse s'élargir ensuite à d'autres. Ce qui est bien clair, c'est que en fait le service doit se voir comme avec plusieurs niveaux d'usage. Un premier niveau qui est la consultation de l'information en ligne, donc pouvoir naviguer sur de l'information géographique. Alors sur les données France entière, hein, puisque c'est les données dont dispose l'Institut Géographique National. Ça effectivement c'est ce qu'on a déjà un petit peu avec le géoportail, mais également des données anciennes qui elles sont spécifiques à EduGéo. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur quelles sont ces données là et qui vont permettre d'étudier les évolutions de paysages sur les 30 ou 40 dernières années. Ça c'est le premier niveau d'usage du service. Un deuxième niveau, ben, c'est de manipuler, de faire des manipulations dans un cadre pédagogique de ces données, c'est-à-dire pouvoir faire des mesures, pouvoir faire des comparaisons, pouvoir faire des croquis et pouvoir éditer des résultats de croquis, par exemple, ou de requêtes, etc. Donc ça, c'est un deuxième niveau qui peut être indépendant du premier, puisque la consultation, c'est déjà quelque chose que vous utilisez, hein, on le voit bien, avec d'autres outils. Mais qui peut être utilisé indépendamment. Et puis le troisième niveau, qui est quand même quelque chose d'assez important, c'est le téléchargement. C'est-à-dire que les données, non seulement vous pouvez les consulter, les visualiser, mais vous pouvez aussi les télécharger. Donc un téléchargement de données, il y a au final une trentaine de zones qui sont définies sur la France, qui représente au total environ 45 000 km². Et donc sur ces zones-là, eh bien on pourra télécharger les données pour les utiliser de manière indépendante, alors soit avec les outils qui seront fournis avec le service du jour, soit de manière totalement indépendante dans votre SIG favori ou dans votre logiciel X ou Y. Voilà. Alors, le projet du Géo, de quoi s'agit-il en termes de maîtrise d'ouvrage? En fait, c'est une co-maîtrise d'ouvrage ministère de l'Éducation IGN. Donc, le ministère de l'Éducation et l'IGN participe moitié-moitié, en fait, aux charges de développement du service. Sachant que le fonctionnement du service est ensuite entièrement financé par l'IGN. C'est-à-dire qu'une fois que le développement est réalisé, eh bien les frais de fonctionnement sont à la charge de l'IGN. Ce fonctionnement est donc financé, pareil, c'est le principe qui vous a été exposé pour Géocube, hein, c'est le même, à partir d'abonnements au service. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'IGN n'est pas une société privée, c'est un établissement public à caractère administratif. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que il n'y a pas de coût de fonctionnement derrière, et c'est pas pour autant que la subvention qui est perçue par l'IGN couvre la totalité des coûts de l'IGN. Il faut savoir que l'IGN n'est financé qu'à hauteur de 50% par les subventions de l'État. Et donc, l'autre moitié du financement doit être trouvé par des ressources propres. C'est le modèle économique que l'État a choisi pour l'IGN. Hein. Donc, c'est pas l'IGN qui choisit son mode de financement, bien entendu. Le cahier des charges, en fait, de ce service, eh bien, il est élaboré, en fait, en commun, dans un comité technique qu'on a monté avec le ministère, donc avec le bureau, la sous-direction des TICE, et avec la participation d'enseignants. Donc il y en a quelques-uns qui sont dans la salle et donc qui ont participé à la rédaction de ce cahier des charges. Alors bien entendu, il y a un comité de pilotage IGN ministère qui suit et qui oriente le projet. Il y a également la participation donc des enseignants qu'on appelle enseignants pilotes dans la rédaction de scénarios pédagogiques. Donc actuellement, eh bien, ils sont en cours de rédaction de ces scénarios pédagogiques qui seront ensuite mis à disposition. Et puis pareil, ben, on les met également à contribution pour tester, pour participer à des bêta-tests. Et donc là aussi, il y en a quelques-uns qui pourront vous dire comment se passe tout ça. Alors, quel est le principe du service ? Le principe, en fait, c'est que c'est un service qui est adossé au géoportail. Donc, le géoportail, effectivement, est une infrastructure. C'est une infrastructure qui est donc mise en place par l'IGN, mais effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est destiné à être le géoportail des territoires et des citoyens, comme c'est indiqué dans l'entête du site. Et donc, c'est un projet national, en fait, de mise à disposition des données publiques en visualisation. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur le BRGM. Les cartes du BRGM ont vocation à être sur le géoportail. Alors, elles n'y sont pas encore, parce qu'effectivement, le BRGM avait déjà développé la partie infoterre et donc a déjà un portail qui est opérationnel pour présenter ces données. Et puis, bon, bah, l'intégration, c'est pas si simple que ça d'intégrer de nouvelles données. Mais il est clair que la vocation du géoportail, c'est bien d'être le portail fédérateur de l'ensemble des données géographiques publiques. Alors, bon, vous voyez que depuis 2 ans hein, que le géoportail est ouvert, il y a eu des améliorations continuelles, des nouvelles versions qui arrivent, etc., etc. On est bien dans ce principe-là, c'est-à-dire que on avance en marchant, hein, comme on dit. C'est-à-dire que ben, le géoportail se construit au fur et à mesure, intègre de nouvelles données, intègre de nouvelles applications, etc., etc. C'est quelque chose qui est prévu de durer dans le temps. Hein. C'est un investissement que fait l'État. C'est pas pour le mettre à la poubelle demain. Hein. Donc on est bien, je pense pas que les gens soient particulièrement inquiets, mais enfin, bien vous dire que les choses qui ont vocation à y être, bon, elles y seront peut-être pas tout de suite, mais elles y seront un jour. Alors, le EduGéo, ben, on se base sur effectivement l'infrastructure du géoportail qui nous permet d'avoir des outils de visualisation 2D et 3D. Donc ça, c'est le premier niveau de base. À cela, on ajoute des données anciennes, hein, des données donc cartographiques et orthophotographiques sur des zones pédagogiques des années 60 à 80, qui vont être donc ajoutées aux données qui sont déjà présentes sur le géoportail. Certaines données spécifiques sont également ajoutées. Alors, il y a les images spot. Le ministère de l'Éducation possède des droits d'utilisation d'images spot. Ces images spot seront aussi intégrées comme faisant partie des données visualisables sur EduGéo. Sur ces données, on propose un outil de croquis qui va permettre de faire des croquis au-dessus de ces données-là, donc que ce soit des données du géoportail, des données anciennes ou les données spot. On propose également un espace de partage qui va permettre d'échanger les travaux qui ont été réalisés, hein, les scénarios pédagogiques et les travaux, éventuellement des travaux d'élèves qui auront pu être intéressants de présenter. Donc un espace de partage. Sur chacune de ces données-là, donc soit les données géoportail, les données anciennes ou les données spot, ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de télécharger les données. Donc le téléchargement est lui là limité sur les 45 000 km² des zones pédagogiques, pour ensuite pouvoir être utilisé de manière indépendante. Mais on propose également un outil, alors que j'appelle SIG, bon, c'est un mini SIG, hein, il faut bien s'entendre sur le terme, mais qui propose quand même, qui va quand même permettre d'aborder les notions, par exemple, d'attributs, les notions de requêtes spatiales. Donc, il y a quand même quelques éléments intéressants de fonctionnalité SIG qui seront proposés sur un outil et du géo. Sachant que si on veut faire des choses plus élaborées, plus complexes, eh bien, on utilisera les données téléchargées avec son outil SIG préféré. Voilà. Bien entendu, cela peut également être partagé sur l'espace de partage. Bon, tous ces outils-là sont accessibles via un site internet. www.edugeo.fr qui propose également donc des pages pédagogiques, une FAQ, un espace wiki, hein, qui permet d'avoir un petit peu de renseignements sur les données qui sont utilisées. Qu'est-ce que c'est qu'une carte au 25 millième, qu'est-ce que c'est qu'une orthophoto, etc. Donc voilà, le service Edugeo, c'est en fait cet ensemble-là. Qui est effectivement basé sur le géoportail, mais qui propose bien d'autres choses. Donc, si je repasse un petit peu en détail les fonctionnalités, donc visualisation 2D et 3D des données France entière et des outils de dessin de croquis, un site internet avec espace de partage et aide en ligne, 45 000 km² de données téléchargeables et un outil SIG pour l'utilisation des données téléchargées. Alors, regardons maintenant la partie visualisation. Alors, quelles sont les données qui sont visualisables? Déjà, toutes les données France entière avec l'interface de visualisation géoportail, c'est-à-dire la cartographie IGN actuelle. Alors, quand je dis actuelle, en fait, c'est actuelle et actualisée, c'est-à-dire qu'à chaque mise à jour des cartes, eh bien, la mise à jour viendra automatiquement. Chaque fois qu'une nouvelle carte ou qu'une nouvelle campagne de photos sera réalisée, eh bien, elle sera en ligne. Donc les cartes au 25 millième, au 50 millième, au 100 millième, les cartes départementales, les cartes au 250 millième, les cartes au million, une carte Europe qui s'affiche en fait selon le zoom d'affichage. L'ensemble de l'orthophotographie IGN, hein, ce qui est appelé la BD ortho, donc orthophotographie couleur avec une résolution de 50 cm. Les bâtiments BD topo, qui sont également visualisables en 3D avec sous forme de ce qu'on appelle de boîte à chaussures, hein, des cubes, mais qui est valable sur l'ensemble de la France, hein, ce qui est quand même intéressant. Les routes et les voies ferrées BD Topo ou BD Carto selon le zoom d'affichage, l'hydrographie BD Topo et BD Carto et les altitudes sous forme de teinte ipsométrique. Bon, alors je vous les présente, mais je pense que vous les avez déjà essayés. Donc l'ensemble des collections cartographiques de l'IGN, hein, donc qui vend des cartes très générales aux cartes au 25 millième très détaillées. Donc là, sur la France entière et département d'outre-mer compris, bien entendu. La base de données ortho, hein, la BD ortho, l'orthophotographie couleur 50 cm. L'ensemble des données vecteurs BD topo, donc avec route, hydro, voie ferrée et bâtiments. Et puis la BD Alti sous forme de teinte ipsométrique. Et bien entendu, toutes ces couches sont superposables et affichables par transparence. Hein, je pense que vous avez déjà essayé d'utiliser ça sur le géoportail. et donc de faire afficher plus ou moins en choisissant les couches que vous voulez voir apparaître à l'écran. Alors, les choses spécifiques, c'est effectivement les données supplémentaires sur les zones pédagogiques. Donc pour le moment, il y a 10 zones qui sont actuellement en ligne sur EduGéo. À terme, il y a 30 zones. Donc il y a, en gros, pour chaque académie sera servie par au moins une zone. Et donc sur ces zones-là, l'IGN a réalisé un travail de scannage et de géoréférencement des cartes 25 000 qui, à l'origine, sont uniquement sous forme papier, des années 60-80. Donc il y a entre 2 et 3 années qui sont visualisables sur chacune des zones. Donc les cartes au 25 millième géoréférencées. Et puis on a réalisé de l'orthophotographie, c'est-à-dire que là c'était un travail assez important, donc de reprendre tous les clichés des missions des années 60 à 80 réalisées par l'IGN, donc c'est des clichés noirs et blancs, et puis donc de les scanner, hein, puisque là c'est pareil, on n'en a qu'une version papier, de les scanner et de réaliser, de les orthorectifier, hein, c'est-à-dire les rendre superposables à une carte, donc en utilisant des points de calage et des programmes d'orthorectification qu'on met en œuvre classiquement à l'IGN, donc pour faire des mosaïques, l'appareil de 2 à 3 mosaïques sur chacune des 30 zones. Et puis donc les images spot qui là nous sont fournies donc par le ministère de l'Éducation, puisque c'est lui qui les possède. Alors là c'est ce qu'on a actuellement. On peut très bien imaginer que d'autres fonds cartographiques puissent être ajoutés sur ces zones-là ou sur d'autres zones, sachant que l'infrastructure du géoportail nous permet en fait d'ajouter à volonté, si je puis dire, d'autres couches, si jamais il y a d'autres couches à rajouter. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité là-dessus. On commence avec ça, mais bien entendu, c'est quelque chose qui peut évoluer. Alors, la cartographie ancienne, donc là je vous ai donné un exemple sur Roissy, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc voici la cartographie 1973. Donc qui est donc visualisable sur EduGéo, et puis la cartographie 2003. Donc là, déjà, alors j'ai pas la transparence sur mon PowerPoint, mais on peut faire cette manip avec le curseur de transparence, mais on voit tout à fait que y a des évolutions très intéressantes entre ces deux dates. Et puis l'orthophotographie, vous allez voir, c'est encore plus impressionnant, puisque là on a une photo qui est encore plus ancienne, puisqu'elle date de 1965. Donc on voit l'autoroute, je ne sais pas si c'était, oui, ça devait être une autoroute déjà à l'époque, et puis des champs. Et puis la même zone en 1987, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas beaucoup, l'autoroute est toujours à la même place. Il y a quelques chemins qu'on devine encore un petit peu. Et puis, donc, la photo 2003. Voilà. Donc, ça, pour chacune des zones, vous avez donc 2 à 3 années, des années 60 à 80, qui sont disponibles en visualisation. Alors, en téléchargement, donc on dispose donc de toutes les données sur ces zones-là. L'orthophotographie 50 cm, la base de données topographiques. Alors, l'orthophoto, ça sera sous forme de format TIFF ou ECW. Les bases de données vecteurs sont sous forme de format shapefile. Et puis, les cartes SCAN 25 et SCAN 100 également sous forme TIFF ou ECW. La cartographie ancienne sera également téléchargeable. donc pareil sous les mêmes formats, et également les orthophotographies anciennes seront également téléchargeables. Donc l'ensemble des données sur ces 30 zones pédagogiques seront téléchargeables et vous pourrez en disposer ensuite pour un usage pédagogique. Alors, le site internet, lui, ben, il comprend des pages de présentation du service, une page d'identification pour l'accès au service, les pages de présentation des données d'hygiène et des notions de cartographie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des petites explications sur qu'est-ce que c'est qu'une carte, une orthophoto, etc. Une foire aux questions, un espace wiki, l'espace de téléchargement, et puis ce que je vous disais tout à l'heure, l'espace de partage. Alors, l'espace de partage, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est la possibilité pour les professeurs de déposer des documents cartographiques créés à partir des outils proposés par le service. Donc, soit à partir de la couche dessin de croquis, soit à partir de la couche SIG, et puis de les accompagner bien, de documents qui vont bien avec, hein, des documents de texte, des images. On n'est pas limité en fait sur le type de document qu'on peut mettre dedans. Et une fois que ces documents sont publiés, eh bien la possibilité de faire des recherches parmi ces documents pour retrouver un exemple, un travail, un scénario pédagogique qui aura été déjà réalisé par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est l'espace, bon ça c'était une demande assez forte hein, du ministère, c'était de pouvoir échanger les travaux qui auront été réalisés. Et donc au démarrage du service, eh bien, les enseignants pilotes vont fournir des exemples de scénarios pédagogiques dans cet espace de partage. Alors l'outil de croquis, donc il s'agit de réaliser des croquis géographiques, donc créer des lignes, des cercles, des polygones, des flèches, des pictogrammes, du texte, au-dessus donc d'un fond cartographique ou photographique. Ensuite le dessin il peut être enregistré sur le poste de travail en local. Le dessin n'est pas enregistré sur le serveur, il est enregistré en local, à moins qu'on veuille le publier, mais à ce moment-là, on le publie dans l'espace de partage. C'est une autre démarche. Là, on enregistre le dessin sur le poste de travail, et ensuite, bien entendu, on peut le recharger pour continuer à travailler dessus, ou bien pour l'échanger, etc. Alors, je vous donne un exemple. L'outil définitif ne sera pas exactement comme celui-là, parce que là, il est encore en cours de développement. Hein. C'est celui qui est passé parmi le test des enseignants. Hein. Donc, ils nous ont fait remarquer un certain nombre de remarques donc, qu'on est en train de prendre en compte. Donc, il va évoluer. Mais c'est pour vous donner un petit peu le principe de l'outil. Hein. Donc on a un fond cartographique, on établit sa légende de croquis, et puis eh bien, on a des outils qui vont nous permettre de rajouter des formes, donc des polygones, des lignes, du texte, des flèches. Voilà. Et comme on peut faire évoluer le fond, c'est-à-dire qu'on peut avoir conservé son croquis original et l'afficher sur un nouveau fond. Hein, puisque là, j'avais, par exemple, affiché la cartographie 1947. Là, on est à Chassieux, donc pas très loin d'ici. la cartographie 1947. Et puis là, j'affiche la cartographie actuelle de la même zone. Et donc, par superposition, le petit polygone rouge que j'avais tracé au départ se retrouve bien positionné. Et bien, il me suffit de continuer à tracer les évolutions de l'extension urbaine pour terminer mon croquis avec un autre fond en fond de mon croquis. Voilà. Alors ça, c'est moi qui ai fait ça, donc je suis absolument pas... Je vous garantis absolument pas la pertinence pédagogique de mon exemple. Simplement, c'est pour montrer les possibilités, en fait, de l'outil de croquis. Voilà. Et puis ensuite, bien entendu, on peut supprimer complètement le fond et puis récupérer le résultat du travail, qui est le croquis de géographie réalisé par l'élève qui montre qu'il a, bien compris, il a bien su analyser ce qu'il avait vu sur ces informations géographiques. Voilà. Alors ensuite, l'outil mini SIG, qui va permettre de travailler sur les données téléchargées, qui s'installe sur le poste de l'utilisateur et qui a comme fonctionnalité de pouvoir faire des requêtes sur les données. Alors c'est essentiellement des requêtes spatiales, c'est-à-dire qu'on va définir des polygones de requêtes et puis déterminer quels sont les objets qui sont soit contenus, soit intersectant les polygones. La possibilité de consulter des attributs des objets. Également la possibilité, alors je l'ai dit, outil de saisie et de modification des objets. C'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter ces couches d'objets. Hein, pour rajouter des objets, y inclure des attributs, définir les attributs sur les objets qu'on rajoute, et consulter les attributs des objets qu'on aura téléchargés. Par exemple, les attributs de la BD Topo, on va pouvoir les consulter. On ne pourra pas les modifier, mais on pourra les consulter. Par contre, les objets que l'on va créer sur une nouvelle couche, on pourra consulter et modifier les attributs de ces objets. Également, la symbologie des objets pourra être adaptée, hein, choisir la représentation des objets en fonction de leurs attributs. Et puis la possibilité de faire une mise en page de cartes et d'exporter sous un format image le résultat ou bien de l'exporter sous un format SIG. Ce qui donne aussi la possibilité d'importer des données SIG. C'est-à-dire si vous avez déjà par ailleurs des objets SIG, vous pourrez les importer dans cet outil. Voilà. Alors, sur le calendrier de réalisation du projet, le site www.dugeo.fr est actif déjà depuis un petit moment. La nouveauté, c'est que depuis le 28 avril, on a ouvert la version bêta en abonnement gratuit. C'est-à-dire que les chefs d'établissement peuvent s'abonner gratuitement. Bon, c'est un abonnement, donc il faut s'enregistrer, hein, bien entendu. Cette version-là propose pour le moment la visualisation 2D et 3D. Je vous ai dit, l'outil de croquis, là, il est encore en cours de finalisation. Donc ça viendra progressivement, les autres fonctionnalités, toujours sur cette version bêta. L'ouverture complète donc est prévue pour la rentrée en fait 2008, donc avec l'espace de partage, le mini SIG. Et pour le moment, on prévoit l'ouverture des abonnements payants aux alentours de la Toussaint 2008. Alors téléchargements parce qu'en fait, tant que nous sommes en abonnement gratuit, on n'aura pas la possibilité d'effectuer les téléchargements. Donc il faudra effectivement passer par l'abonnement payant pour avoir l'accès à la fonctionnalité téléchargement, sachant que les autres fonctionnalités pourront être testées de cette manière-là. Alors sur les abonnements, oui, donc il y avait eu des questions tout à l'heure sur les tarifs, donc j'anticipe les questions. Alors pour le moment, les tarifs, ils sont pas officiellement publiés sur Edugeo. Je peux vous donner néanmoins des ordres de grandeur qui sont en fait des ordres de grandeur qui sont comparables avec les autres services, que ce soit BRGM, que ce soit l'INA, que ce soit enfin les différents services qui proposent des ressources numériques pour l'éducation. Donc il y a des tarifs par établissement, hein, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Le principe, c'est qu'un établissement s'abonne pour l'ensemble de ses élèves et de ses professeurs. Ça, c'est le principe, sachant que effectivement, ce que nous on recherche en fait comme forme de commercialisation, c'est que ce soit soit les conseils généraux, soit les conseils régionaux qui fassent l'abonnement pour l'ensemble de leurs établissements. ce qui permet également d'avoir des tarifs plus intéressants. Pour un conseil général ou un conseil régional, on est dans les tarifs qui iraient entre 0,30 et 0,80 euros par élève et par an. Donc ce qui est un tarif tout à fait raisonnable. Alors si c'est un établissement individuellement qui veut s'abonner, on est entre 300 et 500 euros par an. Voilà. Ce qui est le prix qu'on constate également sur d'autres services. Voilà. De toute façon, je crois que j'avais terminé.
Voilà. Bon, merci. Pardon. Merci beaucoup. Désolé pour cette interruption.
Non, mais de toute façon, j'avais terminé. Donc
c'était pas programmé pour arrêter juste au moment, mais ça s'est vraiment produit à la limite de l'intervention. C'est juste que quelqu'un m'avait débranché mon alimentation et que je suis tombé en panne d'alimentation. Merci, Sylvain. C'est pas toi ? D'accord. Bon, c'est pas grave. On est arrivé juste au bon moment. Bon, je pense qu'il va y avoir des questions. Tu fais circuler le micro, Sylvain. Je vois une question devant.
Donc ma question, c'est quel est le statut des données qui sont mises sur l'espace de partage ?
Alors, sur l'espace de partage, on a convenu avec le ministère qu'il y aurait deux statuts, en fait. Il y a un statut publié et un statut validé. Alors, il est prévu, alors là, c'est encore un mécanisme qu'on doit affiner. Il est prévu qu'il y ait une validation par les inspecteurs des publications sur l'espace de partage. Mais tout sera visible. C'est-à-dire que un professeur peut décider de publier. Il n'a pas à demander l'autorisation à quiconque pour publier sur l'espace de partage. Par contre, sa publication ne sera peut-être pas validée.
Ma voilà. question était à qui appartiennent les données qui sont sur l'espace de partage. Donc je suis Sylvie Pernet et je travaille à la communauté urbaine de Lyon.
Oui.
Donc une collectivité territoriale.
Alors les données qui seront diffusées sur l'espace de partage, il y a deux types de données. Il y a les données géographiques qui sont issues des DUGEO. Et donc qui rentre dans le cadre. Alors l'espace de partage, il est réservé aux abonnés des DUGEO, qu'on soit bien d'accord. Si on n'est pas abonné à DUGEO, on n'a pas accès à l'espace de partage. Donc les données géographiques qui sont publiées sur DUGEO sont des données des DUGEO, et donc c'est des données auxquelles tous les abonnés des DUGEO ont accès. Donc voilà. Ensuite, les données ajoutées à ces données géographiques des DUGEO sont publiées, il est sous la responsabilité du professeur qui les publie. S'il n'a pas le droit de les publier, c'est de sa responsabilité.
Mais j'ai bien entendu que si on avait des données de notre SIG, etc., on pouvait les ajouter sur EDIGEO.
On peut techniquement les ajouter dans l'outil SIG qui est mis à disposition, ce qui ne veut pas dire que ça nous donne le droit de les publier quelque part ailleurs.
Et puis j'avais aussi une autre question. Donc vous nous avez dit que c'était un service payant, c'était le modèle économique. Si jamais il n'y a pas de succès, à partir de quel moment vous envisagez de l'arrêter ?
On n'envisage pas d'arrêter.
Certainement des objectifs de non, vente, l'objectif d'abonnement.
L'objectif, c'est effectivement qu'on couvre nos coûts. Hein, on n'a pas d'objectif de faire de la marge là-dessus, hein, mais on a un objectif de couvrir nos coûts. Pour le moment, on est assez confiant sur la possibilité que les conseils généraux et les conseils régionaux sont quand même nos clients. Hein, donc c'est pas les services enseignement qui sont nos clients habituellement, c'est plutôt les services techniques, mais ce sont déjà des clients de l'IGN. On a un réseau commercial qui est diffusé sur l'ensemble de la France et qui a déjà parmi ses clients les conseils régionaux et les conseils généraux. Donc ils ont déjà été contactés, on sent un petit peu la tendance, et je pense qu'on va avoir quand même, déjà, même pour le démarrage, un certain nombre de conseils généraux qui vont nous permettre de toute manière de commencer sereinement. Ensuite on verra, on verra le succès. En même temps, comme on vous l'a dit, c'est des choses qui vont évoluer, donc on s'arrête. On est bien dans l'esprit de faire une première version. On aura des retours, on verra comment on peut améliorer l'outil pour qu'il soit utilisé, hein, tout simplement. C'est aussi l'IGN a aussi une mission, hein, de diffuser l'information géographique et de faire en sorte que l'information géographique soit utilisée dans le domaine de la recherche et de l'éducation. Ça fait partie des statuts de l'IGN. Donc on est dans cette mission-là. On pense que l'outil qu'on met en place répondra à cette mission-là. Si on s'aperçoit que c'est pas le bon outil, que le tarif est pas adapté, que bon x ou y raison, ben on reverra notre copie. Mais bon, là, je suis quand même assez confiant.
Alors, l'heure tourne. Il y a plusieurs questions. Je vous demande d'être bref sur la question et bref sur la réponse,
parce qu'il
y a 3-4 questions qui arrivent là.
Donc, François Cordelier, je viens des Pays de la Loire, dans ma région. L'IGN s'est associé avec le Conseil général et le Conseil régional, enfin exactement la préfecture de région, et ils ont monté une opération où chaque service de l'État dispose de 4 DVD par département, qui sont les 2 DVD de la BD Ortho, plus la BD Carto, plus le Scan 25. Dans ce cas-là, ben j'ai acheté, moi, des photos aériennes. J'ai acheté un petit logiciel à 290 euros en Pologne, qui se permet de géoréférencer des documents anciens. Un petit peu de patience et on y arrive très facilement. Vous verrez ça dans l'atelier, d'ailleurs, cet après-midi. Et je me fais mon EduGéo. Hein? Le financement. Mais je dis parce que, finalement, ça comporte un risque. Il y a une double cible. Il s'est trouvé que dans l'académie, il y a eu un financement public pour des données distribuées à tous les établissements d'enseignement et de recherche. Et donc...
Alors, justement,
voilà, c'est un enjeu, là.
Oui, non, mais... Alors, le fait que des gens se fassent leur petit EduGéo, après tout, c'est bien normal, et pourquoi pas. EduGéo s'adresse quand même à l'ensemble des professeurs d'histoire géo de France, donc je pense qu'on a encore...
Que d'histoire géo ?
C'est principalement ciblé histoire géo, sachant qu'on a, par exemple, Géocube pour la partie géologie, mais bien entendu, on va pas interdire...
aux autres. Là, il ne financera pas deux fois. Il a donné.
Avec le conseil régional, justement, il y aura une négociation sur le tarif auquel il pourra acheter le service EduGéo, sachant qu'il a effectivement peut-être déjà une partie des droits d'utilisation des données. Voilà.
Alors, question suivante.
Bonjour, Mathieu Rondeau, donc je viens de l'Université Laval. J'ai une question, une intervention. Alors, ma question très simple, les croquis qui sont réalisés, est-ce que c'est du format raster ou vectoriel ?
C'est du format raster.
Ok. Bon, et l'intervention. Moi, je pense que. D'ailleurs, je pense que la plupart du monde ici est d'accord avec ce que je vais dire. C'est-à-dire que le modèle économique qui est choisi par l'IGN et par l'État français, à mon avis, est une erreur parce que. Il faut toujours payer pour avoir accès à l'information ici, j'ai l'impression. Je pense que. Pourtant, il y a un gros effort et de la donnée très intéressante qui est fournie, notamment par la haute résolution des images aériennes qui sont proposées, la possibilité d'aller chercher des images anciennes, la possibilité d'avoir accès à des cartes. Mais le fait de faire payer les utilisateurs pour avoir accès à ces données publiques, finalement, est pour moi une erreur. Je pense que les gens vont se replier vers d'autres alternatives, comme celle que le monsieur a proposée ici, ou alors Google Earth, qui commence à devenir... assez bon en termes de résolution partout dans le monde. Donc moi je suis pas très optimiste par rapport au modèle économique qui est proposé ici, en fait. C'était mon intervention.
Sur le modèle économique, je n'y peux rien. Hein. C'est celui qui est choisi actuellement. Mais en même temps, tout gratuit, enfin, bon, je pense que les professeurs ont l'habitude de payer leurs livres, leurs manuels scolaires, les cartes papier qui étaient autrefois affichées dans les salles de classe, elles étaient payées aussi. Enfin, je ne sais pas si le tout gratuit peut. Bon, effectivement, c'est une question, mais alors là, ce qui dépasse. Qui dépasse largement le cadre des DUGEO. Bon, chaque chose a un coût. Il y a un coût. Alors, soit le coût, on le répercute au niveau global, c'est-à-dire c'est la participation financière de la collectivité, donc soit État, donc c'est les impôts, soit collectivité locale, mais c'est vos impôts aussi de toute manière. Soit on concentre le paiement du coût sur l'utilisateur. Hein, c'est pareil, quand vous achetez votre billet de train, la SNCF est en partie subventionnée par l'État, mais pas totalement. Et donc vous devez quand même payer votre billet de train. Le train n'est pas gratuit. On pourrait imaginer un système où effectivement tout est pris en charge par les collectivités et puis les transports sont gratuits, tout est gratuit. Bon, alors on n'est pas dans ce modèle-là, et je pense pas qu'on aille vers ce modèle-là de toute manière. Donc voilà.
Si je peux me permettre, je crois qu'il faut pas. Il ne faut pas se lancer dans une vision caricaturale des modèles économiques. Il y a un vrai souci avec le modèle économique de l'IGN, parce que je me permets de vous rappeler que ce n'est pas l'Institut national des livres scolaires qui publie les livres scolaires. Donc on a fait des choix aussi en termes de production. Mais je veux revenir sur l'histoire des Pays de la Loire, parce que c'est quand même quelque chose qui va se répéter de plus en plus. Les démarches de mutualisation sont bien avancées au niveau régional, au niveau départemental. Et finalement, ce qui va vous manquer, vous, dans EduGéo, ce sont simplement les parcours pédagogiques. Puisque cela, vous n'y aurez pas accès, puisque vous ne serez pas abonné. Alors que les parcours pédagogiques, c'est du neurone de professeur. Point barre. Donc il y a là quelque part une espèce de forme d'injustice. Et effectivement, en PACA, je pense à PACA aussi, toutes les données, enfin toute une grosse partie des données qui sont comprises dans EduGéo sont mises à la disposition de toute la sphère d'enseignement, des données supplémentaires aussi, puisqu'on va avoir des photographies littorales anciennes, des tas de choses. Donc est-ce qu'il risque pas. En voulant avoir une démarche qui consiste à dire je fais quelque chose pour tout le monde, ce qui est très bien. Je veux dire, et là, l'IGN est vraiment dans sa mission, qui est je couvre tout le territoire. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir finalement une espèce de, avec ce système d'abonnement, une espèce d'injustice vis-à-vis d'un certain nombre de territoires et vis-à-vis du travail qui a pu être fait par ces professeurs qui ont participé? J'ai deux autres petites questions. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la solution technique en ce qui concerne le mini SIG, et est-ce que je pourrais, enfin pas moi mais vous, est-ce que vous pourrez utiliser ce mini SIG pour, avec d'autres données que celles des 30 zones pédagogiques, c'est-à-dire est-ce que je peux télécharger ce mini SIG et l'utiliser avec les données que j'ai récupérées à droite à gauche par des moyens divers? Et ma dernière question, c'est vrai, je fais vite, aucun lien entre ce projet-là et une quelconque cartographie thématique. J'imagine que c'est un choix. Alors là, c'est peut-être pas à vous qu'il faut que je pose la question, c'est peut-être à vous tous. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu dommage dans l'appréhension d'un territoire de n'avoir aucune capacité, quand on étudie par exemple l'évolution de Roissy, d'avoir aucune capacité de superposer une couche avec l'évolution de la population Paris-Ris, un minimum de cartographie thématique? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cette rupture que je sens très forte entre l'exploration territoriale et la cartographie thématique?
Oui, alors je suis désolé, je suis dans le rôle du censeur, donc on va dire que ce sont les dernières questions. Et on fera des échanges à midi. Hein. Oui. Vous restez parmi nous.
Alors je pourrais rester que jusqu'à, j'ai un train à 13h.
Bon, vous nous poserez directement les questions. Je suis désolé parce qu'il nous reste deux conférences en une heure et ça va être très difficile. Et donc on va frustrer les autres orateurs. Donc on vous laisse répondre rapidement sur les deux premières questions. Alors sur la coupure cartographie thématique, cartographie croquis, on a une explication très simple, c'est que le pilotage aujourd'hui se fait par l'épreuve au bac. L'épreuve Rennes aujourd'hui, c'est le croquis de géographie au baccalauréat. en ce qui concerne les épreuves d'histoire-géographie, et donc ça pilote fortement les pratiques cartographiques en classe en amont. Ce qui explique que la commande du ministère n'est pas de développer la cartographie thématique, alors que, par ailleurs, ça serait intéressant, et à une époque, il a été question de faire une épreuve où il y aurait de la cartographie thématique. Mais il se trouve que dans les pratiques cartographiques en classe, de point de vue pédagogique, ce n'est pas du tout les choix qui ont été faits. Et donc, de ce fait, il y a un versant complet qui est en train de tomber. C'est dommage. C'est dommage, effectivement. Alors, sur les deux premiers aspects, rapidement, alors, je vous brutalise un peu, mais oui, je suis désolé.
Non,
mais
je vais répondre vite. Donc, sur l'injustice, en fait, qu'il pourrait y avoir pour certains territoires qui ont déjà, en fait, les données, il faut savoir que les DGO, c'est pas seulement que les données, il y a également les données anciennes qui, elles, ne sont pas, elles sont uniquement sur les DGO. Et puis, il y a les services qui sont associés à ça, comme les outils de dessin, les mini-SIG et l'espace de partage. Donc, effectivement, pour avoir, si un conseil général, au cas par cas, dans une région donnée, si le conseil général vraiment a vraiment tous les droits qui ont été acquis sur les données actuelles, bon, je pense que c'est quelque chose qui pourra être vu au cas par cas. Je sais par exemple qu'il y a la Réunion aussi qui est dans ce cas-là, qui a acquis pour ses établissements des données, les données IGN. Bon, c'est des choses qu'on regarde. Il n'y a pas, enfin, a priori, on va essayer qu'il y ait le moins d'injustice possible. Voilà. Sur le mini SIG, en fait, c'est le client lourd du géoportail qui est utilisé. Hein, donc c'est à la base un noyau géoconcept. Qui sera cet outil-là.
Alors, est-ce que c'est ouvert sur l'extérieur dans l'autre sens? Voilà la question.
Alors,
parce que ce noyau SIG, est-ce qu'il peut s'ouvrir à d'autres données dans l'autre sens?
Oui, on peut importer dedans des données shapefile.
Oui, parce que je rappelle quand même, quand il y a eu l'appel d'offres prochaine, qu'il y avait quand même une demande à deux niveaux différents, qui était l'accès à la donnée géographique, ce sur quoi vous travaillez, mais aussi l'accès à un SIG, véritable SIG pour l'éducation.
Voilà, alors c'est le véritable SIG que là, je veux réfuter, parce que ce n'est pas un véritable SIG.
Alors voilà.
C'est un mini SIG,
hein,
donc qui propose quelques fonctionnalités assez simples, hein, et on ne pourra pas, enfin l'objectif n'est pas de faire un SIG. Dans et du géo. Hein.
D'accord, c'est clair. D'accord. Non, mais on a bien compris, c'est pas votre priorité. On vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est pas souvent qu'on a des gens de l'IGN. Voilà, on est content de pouvoir échanger. Juste un petit mot pendant que Thierry Joliveau se met en place. Il y a quand même une différence entre Google Earth et le géoportail. Quand vous êtes dans le géoportail, vous zoomez, il vous fait correspondre l'échelle géographique avec le degré de zoom. Dans Google Earth, jamais. Vous êtes en altitude. Donc, il y a quand même une culture géographique de l'IGN. Je ne dis pas ça pour défendre l'IGN, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, il y a des choses bizarres. Bon, c'est vrai. On parle d'un portail pour les citoyens et les territoires, et on s'aperçoit qu'il faut payer. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Mais on comprend que, bon, voilà. Il y a un autre problème aussi, qui, par exemple, le cadastre, aujourd'hui, il n'est pas sur le géoportail. Le cadastre, aujourd'hui, il est sur encore une autre application. Alors, le BRGM, les cartes géologiques d'un côté, le cadastre de l'autre, et vous avez ensuite les cartes topographiques sur un troisième outil. Il y a trois géoportails, on va dire, aujourd'hui. C'est pas clair. Hein. Donc, on n'est pas là pour critiquer, mais c'est vrai qu'il y a quand même des soucis au point de vue de l'enseignant dans sa classe qui veut utiliser ces données géographiques.